sur Studio ZEF et c'est l'heure de Feuilles Vives, votre émission de reportage entre ville et campagne. Bienvenue sur Studio ZEF, nous sommes en direct du Théâtre du Grand Orme à Fin pour une émission spéciale de Feuilles Vives, donc toute une après-midi en direct de cette journée de clôture du festival Va Jouer Dehors. Alors Feuilles Vives, c'est une nouvelle émission de reportage sur Studio ZEF que vous avez pu découvrir depuis mi-juin à peu près, avec tous les vendredis de 13h à 13h30 un reportage autour du dialogue ville-campagne à Blois et ses alentours. Et donc là nous avons une édition spéciale en direct du Théâtre du Grand Orme. Donc je suis en compagnie de Lolita Voisin.
Bonjour.
Qui est maître de conférence à l'École du Paysage, qui est un partenaire du projet Feuilles Vives. Ouais. Je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de l'implication de l'École du Paysage dans le projet.
Oui, alors c'est une émission qu'on a effectivement pensée en partenariat entre la radio locale Studio ZEF et l'École du Paysage autour de cette notion justement de dialogue ville-campagne, c'est-à-dire de cette espèce de zone un peu indéfinie, de cette frange dont on parle souvent et qu'on voulait chercher à mieux comprendre, à documenter. Et donc c'est une émission qui, un peu sous forme d'enquête, essaye de comprendre ce qui s'invente dans ces nouvelles périphéries, dans ces nouveaux espaces. Donc c'est vrai que ça peut être à la fois sur des questions de mobilité, de nouveaux espaces publics, ça peut être aussi sur des questions de production, mais ça peut être aussi sur des questions de culture. Et on va en parler notamment aujourd'hui avec une thématique autour de la culture dans le milieu rural. Donc, c'est une émission qui nous intéresse aussi au sein de l'École du Paysage, parce que c'est vrai que l'évolution du territoire, l'évolution des modes de vie, l'évolution des pratiques, ça nécessite d'être documenté, ça nécessite d'être compris. Et c'est vrai que nos élèves sont toujours en situation d'enquête, donc c'est une forme par l'écoute des acteurs locaux qui nous intéressait particulièrement.
Très bien. Et donc la culture en milieu rural qu'on a eu pas mal l'occasion d'aborder depuis le début de l'émission, avec au moins 3 émissions qui ont tourné autour de ces thèmes-là, et notamment un mois d'août qui a été spécialement consacré à ce thème-là, puisqu'on a eu le festival, un reportage sur le festival H2O, donc un festival pluridisciplinaire en vallée de la Cisse. Il y a vendredi dernier la diffusion du reportage sur Va Jouer Dehors, justement. Donc là, on est c'est la dernière journée de ce festival qui a duré 2 semaines. Je suis avec l'organisatrice de ce festival, Marie Vaquez. Est-ce que tu peux faire déjà un premier bilan de...
Oui, bonjour à tous. On arrive au terme de cette énorme aventure, ou plutôt de ce grand voyage, parce que c'est un peu le fil conducteur de Va Jouer Dehors, puisque c'est un festival déjà qui est itinérant, donc qui voyage pendant une quinzaine de jours dans les différentes communes du secteur du sud blésois. Voilà, on a arpenté 8 localités différentes. Et après, c'est aussi un grand voyage musical, parce que donc nous on s'oriente sur la musique classique, mais en fait pour sortir du cadre en tout cas que les gens imaginent souvent autour de cette musique, c'est-à-dire qu'on part déjà au niveau de historique, on fait un long voyage dans le temps, on est parti de la musique baroque sur notre premier concert jusqu'à de la musique beaucoup plus contemporaine dans les derniers jours, et puis surtout un voyage autour du monde. Ça, c'est vraiment une des thématiques fortes de cette année, parce que la musique classique, c'est souvent associé à la musique européenne, occidentale. Et nous, on voyage partout. Et cet après-midi, ça va vraiment être le point d'orgue de tout ça, parce qu'on part avec tout ce partenariat qu'on fait avec le CADA, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc chaque demandeur d'asile amène aussi un bout de sa propre culture. On va partir sur le bassin méditerranéen avec le concert final. On est ravis de finir dans ce lieu tout à fait incroyable qui est aussi qui porte aussi ses valeurs de faire vivre le territoire à travers la culture, et je trouvais ça vraiment super que ça termine là sous ce soleil extraordinaire. On a vraiment de la chance, il fait presque trop chaud, mais ça va bien avec la thématique du jour, donc on est très très contents.
D'accord, bah on entend justement les demandeurs d'asile du CADA répéter derrière nous pour leur spectacle, un spectacle qui est prévu à 16h30 je crois. Et donc je suis aussi avec Danielle Marty qui est la directrice artistique de la Compagnie du Hasard, parce que là on est un petit peu sur le territoire de la Compagnie du Hasard, donc ce théâtre du Grand Orme. Est-ce que Danielle, vous pouvez un peu nous présenter votre compagnie, comment elle s'est retrouvée dans ce lieu à Fin, alors qu'elle était blésoise à l'origine et...
Bon, je vais faire bref, hein, parce que l'histoire de la compagnie, c'est 40 ans cette année, donc je ne vais pas raconter tout, sinon on n'est pas couché. Mais nous aussi, on est ravis. Là, moi, j'ai en face de moi une jeune africaine, je suppose, qui chante. Et c'est vrai que ça a toujours été l'objectif de ce lieu depuis qu'on y est arrivé en 2014. C'est d'en faire un lieu de partage, de culture, ouvert le plus possible à tout le monde. Et donc, on est ravis d'accueillir, on va jouer dehors. Et comme l'a dit Marie, tout se passe parfaitement bien aujourd'hui, donc c'est parfait. Après, rapidement, donc moi j'ai pas envie de revenir sans arrêt là-dessus, mais juste pour expliquer, donc en 2013, la ville de Blois, qui était alors représentée par Nicolas Perruchot, a souhaité ne pas renouveler la convention qui unissait la compagnie à la ville. Donc on est parti un peu en catastrophe. On a eu la chance de pouvoir acquérir ce corps de ferme, et donc depuis 14 ans maintenant, on a transformer ce lieu en un théâtre et puis en un lieu de résidence, d'accueil, de pédagogie. Voilà, et on y est très bien.
Est-ce que justement, pour présenter un petit peu aux auditeurs ce cadre un peu singulier quand même dans lequel on est et qui sera aussi au croisement de Va jouer dehors et de la Compagnie du Hasard, est-ce qu'on peut décrire un petit peu ce lieu vraiment physiquement, à quoi il ressemble ?
C'est effectivement un ancien corps de ferme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bâtiments. Il y avait une très grande grange qui fait 350 mètres carrés au sol, et c'est parce qu'on a vu cette grange quand on a visité les lieux qu'on était en train de complètement à l'affût de trouver un endroit où survivre. Quand on a vu cet immense bâtiment qui fait 10 mètres de haut, qui a une charpente du 17e siècle, d'après ce que nous ont dit les architectes qui sont passés par là, qu'on s'est dit voilà, c'est là qu'on veut aller, parce que bon, quand on est arrivé, tout s'effondrait un tout petit peu, mais c'est vraiment une très belle grange en pierre avec une charpente en bois, donc qu'on a aménagé depuis en théâtre. Mais c'est vrai que ça a pris du temps, là ça fait 14 ans, et depuis un an et demi on est à peu près bien dedans, et c'est là qu'il y aura le concert le plus important de l'après-midi, enfin en tout cas en durée je crois, à 17h30, et c'est donc devenu une salle de spectacle de 130 places, et avec un plateau qui fait à peu près 100 mètres carrés, et une belle loge, un beau hall d'accueil dans lequel il y aura le premier concert je crois, voilà. Et donc tout autour de cette grange il y a une ancienne écurie, une ancienne laiterie, je sais pas trop ce qu'est le lieu qui était derrière nous, je pense que ça devait être un lieu de stockage aussi, peut-être d'habitation, plus une maison d'habitation et ce qu'on appelle le pressoir, qui était l'endroit où on pressait le vin. C'est une ferme qui donc date probablement du XVIIe siècle, qui n'a jamais vraiment été habitée, qui était habitée uniquement au moment des récoltes. Et c'est une ferme très très ouverte, et d'après ce que nous ont dit les voisins, les plus belles histoires d'amour sont nées ici et ça continue. Donc ça, c'est génial. Voilà.
C'est vrai que c'est un lieu qui est particulièrement ouvert, puisqu'il n'y a, ouais, a pas de portail, y a pas pour de clôture, entrer, il n'y a pas de clôture. C'est un lieu qu'on traverse.
C'est vrai que c'est rare. On n'a pas choisi ça, mais c'est marrant. Avec les années, on a découvert donc tout un tas d'histoires qui s'étaient produites dans ce lieu. On a le petit coquillage de Saint-Jacques de Compostelle. Donc je pense que c'est aussi un lieu qui sert parfois d'étape sur cette route-là. Et dans la grange qu'on a aménagée en théâtre, dormaient tous les employés agricoles qui n'étaient pas du coin. Et quand ils travaillaient dans les fermes d'un peu partout pour faire les moissons ou les vendanges, ils venaient dormir ici. Donc c'est assez marrant que ça soit devenu un lieu de théâtre, un lieu de partage. Voilà.
D'accord. Et donc Marie, tu viens ici un peu avec une double casquette, celle d'organisatrice du festival Va jouer dehors, mais aussi celle de chargée de développement du lieu, du théâtre du Grand Orme. Est-ce que vous pouvez peut-être tous les deux expliquer cette interaction entre une compagnie de théâtre et un lieu? Pourquoi est-ce qu'une compagnie de théâtre a besoin ou a envie de développer un lieu qui dépasse le théâtre finalement?
Donc je réponds, c'est pour ça que j'ai embauché Marie. Et puis après je lui passe la parole pour le boulot. Mais c'est vrai que donc quand on est arrivé, tout était en ruine et tout était, enfin bon voilà, il y avait pas de porte, il y avait pas d'électricité, il y avait pas d'eau, il y avait rien du tout. Donc on était juste en mode survie. Et puis avec les années, donc le lieu s'est transformé et est devenu un lieu formidable pour les résidences, pour la pédagogie, pour tout ça. Je vois que j'étais pas assez près du micro. Hop, ça monte. Et bon, il y a tout un tas de manœuvres. Alors, est-ce que c'est mieux ? Est-ce c'est que parfait. Les techniciens sont contents ? Oui, ça a l'air d'être mieux. Donc, depuis à peu près un an et demi, on se rend compte que maintenant, on a un lieu qui est en état et qu'il fonctionne entre 60 et une centaine de jours par an, et ce n'est pas du tout assez. Voilà, il faudrait que ce lieu serve à tout le monde beaucoup plus tout au long de l'année. Et donc, c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit qu'il fallait embaucher quelqu'un. Nous, on est une compagnie de théâtre, donc notre objectif premier, c'est de créer des spectacles et de les tourner. C'est pas forcément de faire que ce lieu soit vivant tout au long de l'année. Donc, on n'avait pas l'énergie de faire ça. Et c'est pour ça qu'on a embauché Marie. Et voilà, je lui passe la parole.
Oui, ben voilà. Non, mais c'est vrai que je suis très contente d'avoir rejoint l'équipe de la compagnie du hasard. Parce que moi, ça fait, étant originaire d'un petit village pas très loin, je connais ce lieu depuis que la compagnie l'a investi. Et j'ai toujours... Enfin voilà, penser qu'il y avait quand même quelque chose à faire, notamment maintenant que la compagnie a fait tant d'investissements et tant de travaux et que voilà, il y a un confort qui est quand même
quasi
vraiment
parfait.
Quasi parfait, voilà. Et voilà, moi je suis arrivée dans l'équipe de la compagnie en mars avec comme mission d'essayer de trouver voilà d'autres manières de faire vivre ce lieu. On a rapidement ciblé un peu deux axes, évidemment l'axe culturel artistique qui pourrait voilà se passer enfin lié au théâtre, avec une volonté d'accueillir beaucoup plus de compagnies en résidence, par exemple, parce qu'on se rend compte que c'est un super lieu de travail. On a quand même régulièrement des artistes qui viennent et qui voilà, se calment, le côté campagne. En même temps, voilà, on n'est pas coupé du monde, mais quand on est là, on n'est pas ailleurs. Et on se rend compte que ça plaît énormément. Donc je pense que c'est un vrai axe qu'on va développer. Ouais. Après aussi, l'envie d'ancrer vraiment ce lieu dans le territoire et donc de travailler avec tout un tas de structures qui pourraient l'utiliser de diverses manières. L'exemple là que je pense, parce que c'est le plus abouti et puis il va commencer dès la rentrée, c'est un partenariat qu'on est en train de faire avec l'école maternelle de Fougères. Et là, sur une toute autre dimension, parce que c'est par rapport au jardin. Ça, c'est quelque chose qui a commencé... voilà, on a parlé de la ferme, mais en fait, autour de cette ferme, il y a 2,5 hectares de nature. Et que, voilà, ça semblait... Il y a toujours eu, je pense, des petits essais de potager, ne serait-ce que toi, Daniel, parce que t'habites ici, mais voilà, c'est vrai que... Comme il est investi à l'année, on peut voir les choses pousser. Donc c'est un axe qu'on a développé parce qu'aussi on a une élève de l'école de théâtre. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. C'est qu'ici, deux jours par semaine, dans le théâtre, il y a une soixantaine d'élèves, adultes comme enfants, de tous les villages environnants qui viennent suivre des cours de théâtre sur toute l'année. Et donc une de nos élèves qui est formatrice en orthithérapie, nous a accompagnés dans la création d'espaces de potager en permaculture qu'on a fait un peu sous forme d'atelier ou en tout cas de journée de rencontre avec des bénévoles, des habitants qui tous les mois venaient voilà, avec leurs bottes et leurs arrosoirs pour créer voilà, notamment un carré de ce qu'on a appelé le jardin de pierre avec une expérience de permaculture. Et ça, on s'est rendu compte que ce côté-là intéressait énormément de monde autour, dont l'école maternelle de Fougères, qui va venir quasiment une quinzaine de fois avec les différentes classes l'année prochaine, sur des thématiques à la fois potagères, mais aussi environnementales. On a contacté tout un tas d'associations, de structures qui œuvrent sur ces thématiques-là. Ça peut être le CDPNE, la Ligue de protection des oiseaux, pour essayer aussi que ça puisse être un pôle ressource. Peut-être que globalement, c'est le mot qui pourrait ressortir de tout ça.
On a de la chance, on a des hirondelles, on a des grenouilles, on On a des salamandres, on a plein. C'est vrai qu'on a, cet endroit est un peu magique pour ça. On a l'impression que malgré les maraîchers autour qui sont pas toujours très très bio, tout le monde est content de, tous les animaux sont toujours contents de venir ici et sont en pleine forme. Et ça, ça intéresse évidemment les enfants, les adultes, enfin un peu tout le monde.
Et justement, peut-être pour raconter maintenant ce qu'il y a autour de ce lieu, c'est vrai qu'on est donc sur une ferme, une ancienne ferme, donc avec autour des espaces agricoles, mais on est aussi dans une zone qui a beaucoup évolué ces 20 dernières années, puisque c'est une zone en voie de construction, il y a beaucoup de nouvelles maisons. Mes parents habitent juste à côté, en 20 ans, c'est fou le nombre de nouveaux habitants qui sont ici. Et c'est un petit peu votre objectif à toutes les deux, c'est faire aussi, ou en tout cas par la force des choses, c'est de faire vivre des lieux ou des territoires qui sont en milieu rural, mais aussi en évolution. Quel public vous souhaitez toucher à travers vos... Alors soit avec la Compagnie du Hasard, soit avec Va Jouer Dehors, quel type de public? Est-ce que c'est plutôt un public qui est habitué à des scènes plutôt urbaines que vous souhaitez essayer de ramener dans ces lieux un petit peu excentrés des centres? Ou alors au contraire, c'est de toucher aussi une population qui habite ici, soit depuis très longtemps, soit de manière plus récente, quand par exemple on vient de faire construire un pavillon à côté de la Compagnie du Hasard?
Moi, par expérience, en tout cas, ce que je trouve merveilleux quand on joue, c'est que le public soit mélangé. Je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un public homogène. Et c'est vrai que ce qu'on s'efforce de faire ici, c'est justement d'inviter tous les publics autour de nous. Et on a de la chance que ce soit des publics très, très mixtes. Ce que tu décrivais, c'est-à-dire qu'il y a, depuis qu'on est arrivé et maintenant, je ne sais pas combien de petits pavillons ont poussé tout autour. Et du coup, c'est assez formidable parce qu'en général, ce sont des urbains qui viennent ici parce que le coût du mètre carré de terre est beaucoup moins cher que quand on s'approche de Blois. Donc ce sont des jeunes couples d'une trentaine d'années avec des enfants. Et ça, c'est effectivement typiquement un public formidable à cibler. Alors ils viennent pas forcément tellement au spectacle, mais ils envoient leurs enfants à l'école de théâtre ou au stage. Et grâce au croisement d'activités qui peuvent se produire ici, je pense qu'on arrive à vraiment les toucher. On arrive à toucher les gens qui habitent ici depuis toujours. Madame Aber, notre voisine, qui doit avoir, je ne sais pas, entre 70 et 80 ans, qui est notre première supportrice. Et elle sait tout sur le lieu, sur l'histoire. Et je trouve que c'est vraiment chouette, parce que comme ce que tu disais en introduction, les endroits où on habite se modifient, changent, et les populations bougent, et on recrée des nouvelles dynamiques. Et grâce à l'art, grâce à la pratique artistique, on peut expérimenter ces nouveaux mélanges de genres. Nous, on a de la chance, dans l'école de théâtre dont parlait Marie, on a donc deux groupes adultes qui ont chacun 15 personnes, et on pense qu'on pourrait remplir un troisième groupe adulte, mais on ne veut pas, parce que sinon on va devenir une usine. Mais c'est incroyable, les gens viennent de vraiment plein de milieux sociaux différents, ils viennent de 30 à 40 kilomètres autour, et ils sont contents de faire ces kilomètres pour trouver ce cadre assez idéal, avec des professeurs qui sont des acteurs, des metteurs en scène qui changent tous les 3 mois, et partager des choses avec des gens différents en s'amusant, c'est quand même assez formidable, quoi. Voilà.
Vous aviez déjà votre propre école de théâtre quand la compagnie était à Blois?
Non, pas du tout. D'accord. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que pour fidéliser un public, enfin simplement se faire connaître, la pédagogie et les actions pédagogiques étaient vraiment une passerelle assez formidable. Et les premières actions qu'on a faites ici, c'était des stages l'été et aux vacances. Et très vite, dès qu'on a pu, dès que le théâtre a été en état de marche, on a ouvert l'école. Mais bon, l'hiver, il faisait trop froid. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Mais dès 2008, on a ouvert l'école, oui.
Donc c'était une forme de volonté, en s'installant à la campagne, de s'adapter finalement à ce nouveau cadre, en disant on a besoin de trouver un nouveau public, donc il faut qu'on aille...
Oui, c'est ça. C'était de se rendre compte que pour que les gens aient un intérêt pour nos activités, se disent pas, bon, c'est bien, il y a des dingos à côté, mais bon, finalement, du moment qu'ils font pas trop de bruit, ils dérangent pas. C'est tout d'un coup, en ouvrant des activités pédagogiques à leurs enfants, on suscitait une curiosité, parce que c'est vrai qu'ici, il y a des activités sportives, mais il y a vraiment très, très peu d'activités culturelles qui sont proposées aux enfants. Ceci dit, c'est en train de bouger aussi, et en 14 ans, ça a vachement bougé. Mais en tout cas, en théâtre, on est les seuls, et les enfants sont hyper heureux de venir là. Et les parents, quand ils voient le travail des enfants, se disent, bon, c'est bien, les enfants deviennent plus curieux, plus intelligents. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu l'utopie qu'on a. C'est qu'on se dit que quand ils sont capables d'écouter leurs voisins, de découvrir un tas de choses, ils vont devenir forcément plus malins, et ça, c'est bien.
Et est-ce que c'est la différence principale entre offrir, avoir une offre culturelle en milieu urbain et en milieu rural? C'est qu'en milieu rural, on doit plus s'impliquer, on doit être plus actif dans la recherche du public en développant ces activités-là ou en développant d'autres activités autour du lieu?
Je sais pas, c'est un peu compliqué parce que nous, comme on est venu ici alors qu'on était plus du tout débutant puisqu'on avait déjà 25 ans de carrière derrière nous, mais il fallait qu'on reconstruise des choses, donc on s'est servi de ce qu'on savait un peu faire. Et c'est vrai que quand on a 25 ans de boulot derrière soi, on a quand même une certaine expérience de la transmission, donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on est passé par cette case là je sais pas si ça aurait pu être le cas de jeunes gens vraiment débutants, puisque la pédagogie, ça exige quand même d'avoir un petit peu de bouteille, quoi. Enfin, ou même quand on accueille des très jeunes professeurs, c'est vrai que ça peut se faire parce qu'il y a des plus anciens à côté. C'est un peu compliqué. Je sais pas. Moi, j'ai pas de recul assez pour avoir une analyse claire. Ce qui est certain, c'est que en termes d'activité culturelle, il y a un vrai manque, et surtout en termes pédagogiques. C'est pour ça que ce soit l'école de Fougères, enfin les collèges tout autour, toutes les écoles sont demandeuses d'aventures pédagogiques. Donc c'est bien de les développer, et on sait qu'on est écouté en ville. Il y a la scène nationale, il y a le conservatoire, il y a plein d'autres choses qui sont proposées. Donc c'est beaucoup plus difficile d'exister, quoi. Donc je sais pas, c'est pour moi, dans ma tête, c'est pas hyper clair tout ça. Voir comment ça marche.
Très bien. Et est-ce que les autres activités de résidence ou de jardin pédagogique vont influencer sur le travail, votre travail en tant que compagnie? Ou alors est-ce que ça reste des choses qui vont être un peu en vase clos, quoi, séparées l'une de l'autre?
Non, pas du tout, puisque je pense que dès l'année prochaine, on fera un spectacle en lien avec tous, avec les jardins. Voilà. D'accord. Le scoop du jour.
Très bien. Et donc, je crois qu'on va avoir un concert qui va commencer dans pas longtemps. Est-ce que Marie, tu peux nous le présenter?
Oui, je peux vous le présenter. En fait, c'est une proposition qui m'a été faite de la trésorière de l'association, figurez-vous. Gertrudis Vergarac, donc qui va être la chanteuse de ce petit concert là qui va commencer dans une petite dizaine de minutes, et qui c'est marrant parce que l'année dernière, quand on a créé donc le festival et qu'on a cherché tout un tas de musiciens pour se produire, nous on a quand même une envie de travailler localement, que ce soit par exemple avec les producteurs, enfin les lieux, les associations, mais au niveau des artistes, on avait du mal à trouver des locaux, et on a créé un opéra et on cherchait une chanteuse, et en fait c'est une amie de l'autre bout de la France qui m'a dit: ah, mais moi j'ai une amie à Blois qui chante. Et donc elle a chanté sur le projet, elle est rentrée dans l'association et elle m'a dit: ah, mais si tu veux, on monte un projet avec une harpiste. Donc c'est une chanteuse cubaine, Gertrudis. Et elle m'a dit: ah, mais ça nous ferait super plaisir de venir présenter ça au festival. Donc je suis vraiment ravie qu'on ait réussi à faire ça. Donc elle va chanter avec une harpiste qui s'appelle Luce Courseul, qui est tourangelle. Et elles ont monté un programme tout à fait original, parce que donc elle se sert, Gertrudis, à fouiller dans les archives cubaines pour trouver tout un tas de mélodies donc du XVIIe siècle. En fait, toutes les deux sont plutôt orientées musique ancienne. Et sauf que, voilà, nous, ce qu'on entend habituellement ici, c'est de la musique ancienne européenne, française ou allemande, enfin voilà, de nos contrées. Et donc là, j'ai hâte de découvrir ce que ça donne. J'avais eu un petit avant-goût à une répétition. Et voilà, donc un petit duo chant et harpe ancienne. Donc je pense que ça va être un beau voyage de l'autre côté de l'océan.
Et elles vont jouer juste à côté de nous.
Et alors, elles devaient jouer dans la laiterie, mais vu les chaleurs caniculaires de cet après-midi, on a décidé de faire ça dans le hall du théâtre. Car voilà, l'avantage des vieux bâtiments, c'est que ça garde une certaine fraîcheur. Ouais. Donc du coup. Voilà, on rapatrie ça là-dessous pour être un peu au frais.
Très bien. Et puis, pour rappel, toute l'après-midi, l'accès au site est gratuit. Donc avec les deux premiers spectacles en accès libre et seulement le dernier spectacle payant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre au Théâtre du Grand Orme à Fins. Et bah, tout de suite, comme le concert va démarrer, on va peut-être lancer un reportage de tes étudiants, Lolita ?
Oui, on va le lancer directement, ou une petite musique peut-être avant ? Allez, une petite musique avant. En tout cas, merci beaucoup, Daniel et Marie, de votre présence.
Merci à vous.
C'est intéressant d'avoir vos voix conjuguées. Et puis, on continuera les interviews et l'exploration après.
Ça marche.